RMC, Intégral Tour.
La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe.
Eddie Merckx.
Non, Che Guevara.
Christophe Cessieux.
Et la révolution aujourd'hui, les adversaires de Chris Froome ont envie de la faire. Nous sommes à 70 km de l'arrivée et la première escarmouche il y a quelques minutes, mais il se passe quelque chose à l'arrière du groupe maillot jaune. L'un des grands leaders de ce Tour de France vient de mettre pied à terre. Fred, a priori c'est terminé pour Van Garderen.
TJ Van Garderen, troisième du classement général, en larmes, à l'arrêt dans la troisième difficulté de la journée, le col de la Col Saint-Michel. Il était rentré à l'arrière du peloton après avoir vécu un début d'étape galère. L'américain de l'équipe BMC, visiblement malade, tout blanc, et qui est en train de fondre en larmes dans les bras de
Yvon Le Danois,
le directeur sportif de l'équipe américaine BMC. Van Garderen est en train de jeter l'éponge. Il a même refusé l'assistance de la voiture médicale. Les mécanos, les soigneurs sont là pour le réconforter. Maxi Andri, l'ancien coureur britannique que l'on voit à ses côtés notamment. Détresse absolue. Le Tour est sans pitié pour ses héros comme pour ses anonymes. TJ Van Garderen qui abandonne le Tour de France à l'instant. Il perd sa troisième place sur le podium et virtuellement c'est Valverde qui monte sur la troisième marche du podium derrière Froome et Quintana.
C'est terrible, Cyril, terrible de voir un grand leader comme ça en troisième semaine après tous les efforts déployés, lui qui rêvait de monter sur le podium, être obligé de s'arrêter là.
Oui, c'est toujours très triste, tous ceux qui ont fait le Tour de France et qui se sont trouvés dans cette situation savent de quoi je veux parler. Et on ne quitte pas le Tour en étant troisième sans que ça fasse très très mal, très très mal au cœur.
Voilà, très mal au cœur pour TJ Van Garderen, l'américain de la formation BMC. Georges Quirino est sur la moto avec le groupe de tête qui compte désormais 3 minutes avant. Georges.
Exactement, le groupe de tête dans l'ascension du col de la Col Saint-Michel, classé en deuxième catégorie. Ils viennent de passer les hommes de tête, la banderole indiquant les 5 derniers kilomètres avant le sommet. Et dans ce groupe où l'on voit notamment Thibaut Pinot toujours présent dans les premières positions, avec Benoît Vaugrenard également son coéquipier. C'est eux qui imposent le tempo de ce groupe de tête. Il y a là également le maillot vert de Peter Sagan qui est dans les bonnes positions. Et on voit les cordes d'information Sky par contre, et notamment Richie Porte et Nicolas Roche qui sont là, qui ne donnent pas un coup de pédale. Évidemment, on les a eu beaucoup discuté avec leur directeur sportif il y a quelques instants. Les Sky sont en pleine discussion pour savoir ce qu'ils doivent faire dans ce groupe de tête visiblement.
Très bien, Fred, on a vu donc la première escarmouche il y a quelques minutes, plantée par Alberto Contador. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il a cherché à faire dans cette histoire-là?
Peut-être un barreau d'honneur, un chant du cygne pour Alberto Contador qui est un peu loin au classement général. Lui qui, on le rappelle, s'était mis le doublé Giro Tour de France comme défi. Il était sorti dans la roue de son équipier Michael Rogers, l'Australien de Tinkoff Saxo. On vous rappelle que dans le groupe de 28, de 27 maintenant à l'avant de la tête, il y a deux coureurs de cette équipe Tinkoff, en la personne de Rafał Majka, le grimpeur polonais, et Peter Sagan, le maillot vert. Alberto Contador qui a mis une banderille peut-être pour réveiller ce qu'on va appeler l'esprit de Fuentedé. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de Fuentedé? Fuentedé, c'est la ville arrivée de la 17e étape du Tour d'Espagne 2012. En 2012, alors qu'il était loin au classement général, il avait renversé la course, Alberto Contador, piquant le maillot de leader à Joaquin Rodriguez après une longue chevauchée fantastique, un peu trop fantastique diront certains, mais cette fois on a cru revivre le scénario de cette étape en direction de Fuentedé sur la Vuelta il y a 3 ans. C'était un coup pour rien pour l'instant, mais cela montre bien que sur cette première des 4 étapes alpestres, les prétendants, les adversaires de Christopher Froome ont le mort aux dents, et cela nous réjouit évidemment. 69 km à parcourir avec toujours le col d'Alos et la montée de Pralou à gravir pour cette première très très belle étape des Alpes.
Et il y a des hommes qui sortent du peloton maillot jaune actuellement, encore la formation de Tinkoff, désormais suivi par
Michael Rogers,
c'est un Movistar qui vient de partir aussi.
Oui, un Movistar.
Le harcèlement a commencé sous la pression des Tinkoff.
On a pu noter également la présence l'attaque, la contre-attaque plutôt de Valverde dans la roue de Contador. C'est intéressant de voir que les deux Espagnols ont voulu attaquer de concert Christopher Froome. Alors, il y a deux interprétations on est bien d'accord, mais si on a une vision neutre de ce qui s'est passé sur la route, on a vu deux coureurs espagnols sortir ensemble. Après, évidemment, il semble que Valverde ait voulu neutraliser Alberto Contador.
Ils se suivent au classement général.
On vous rappelle qu'il n'y a que 21 secondes entre ces deux-là, aux 4e et 5e place du général ce matin, qui deviennent les 3 et 4e place du général virtuellement, puisqu'on vous rappelle l'abandon il y a quelques minutes de TJ Van Garderen, l'Américain.
Très bien, messieurs, c'est l'heure de la question du jour dans l'intégral tour avec nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. David Opocinski nous a rejoint. Salut David.
Bonjour messieurs.
Alors on va s'intéresser et s'interroger sur Contador. Est-ce que Contador peut encore espérer Contador sur ce Tour de France? Est-ce que là c'est juste pour montrer qu'il reste encore un grand champion, ou est-ce qu'il a vraiment des ambitions d'aller remporter le Tour? David, qu'est-ce que tu en dis toi?
C'est comme il l'avait souligné avant le début du Tour, ça va être avant tout un défi mental. Hein, c'est parce que
on rappelle qu'il a gagné le Giro, hein, il y a de ça quelques semaines.
Ouais, ça va être réussir à surmonter certes la fatigue, mais être capable de se faire mal et de façon répétée et régulière dans ces derniers jours qui sont pour lui finalement peut-être. On pourrait croire que ça va être les plus durs, mais en même temps, depuis le début du Tour, il n'a pas vraiment retrouvé un rythme de croisière, on va dire. Et il a fait la route du Sud avant pour s'échauffer, ça s'était plutôt bien passé. Mais là, c'est vrai qu'on l'attend vraiment dans ces prochains jours, et c'est intéressant ce qui se passe. Ouais.
Avec de nouvelles attaques à l'avant du peloton, ça sort par petites grappes, un, puis deux, puis un autre, puis deux autres. À l'instant, deux coureurs de l'équipe Europcar, c'est Romain Sicard avec dans sa roue, devinez qui, Pierre Roland, l'ancien vainqueur de l'étape de l'Alpe d'Huez, puis de celle de la Toussuire, accompagné en ce moment de Warren Barguil qui bouge, Valverde, et puis un autre coureur de l'équipe Tinkoff. On est encore à 69 km de l'arrivée pour le groupe Maillot Jaune, mais ça sort dans tous les sens. Cette étape prend des allures de feu d'artifice.
Le problème, c'est qu'avec Valverde dans ce groupe-là, forcément, derrière, ça va réagir, Cyril. Hein,
Il faut que ça réagisse. Ouais, ouais. Si ça réagit pas, parce que ces coureurs, on peut les laisser par terre, ils sont loin au classement général. Ouais. La présence de Valverde oblige les Sky à accélérer, à mettre un cran au-dessus. Ouais, parce que si on les oblige pas à mettre un cran au-dessus, ils vont continuer à un tempo où ils ne sucent pas. Et on arrivera donc dans la dernière ascension avec tous les équipiers nécessaires. Mais n'oublions pas qu'il en a déjà deux devant. Mmh. Mais les Movistar aussi hein, ont des équipiers à l'avant. Ils en ont même trois à l'avant, les Movistar.
Ouais. Trois dans le groupe de tête. Castroviejo, Herrada et Izaguirre.
Cyril, un mot sur Alberto Contador. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que il peut encore espérer en troisième semaine renverser la situation en sa faveur?
Il court comme si. Maintenant, je pense qu'il a une autre problématique, c'est qu'il s'est rendu compte que lorsqu'il fallait faire la différence ou lorsque la course montait en puissance, il avait un petit problème. Il avait un petit problème pour accompagner, ce qui veut dire qu'il a perdu de sa puissance, de son explosivité. Il est un petit peu diesel. Il peut durer longtemps, mais il ne peut plus suivre lorsqu'on est au max. Donc, pour lui, c'est plus intéressant d'essayer de durcir la course dans un premier temps, éventuellement d'arriver à partir, ce qui n'est pas évident, mais c'est où ça marche comme ça. Où il a rien à espérer.
Ouais, il est moins tranchant, hein, comme le disait Cyril il y a quelques instants, moins tranchant que les années précédentes ou même que lors du dernier Giro, Fred.
Oui, il est moins frais clairement, et puis surtout il tombe sur des os en la personne de Van Garderen, de Valverde et de Christopher Froome et Quintana, qui sont des coureurs qui n'avaient qu'un gros os, des os qui mangent des os, un gros os à ronger. C'était le Tour de France, ils se sont préparés spécifiquement. Contador a laissé des plumes, mais c'était prévu sur le Giro. Il a remis hier en question sa propre préparation. Fallait-il qu'il vienne sur la route du Sud, épreuve préparatoire au Tour de France qu'il a d'ailleurs remporté de belle manière. David, Contador est-il bouilli, est-il cramé, lui qui vivra sa dernière saison de coureur l'année prochaine?
C'est vrai qu'il a essayé de gérer au mieux, hein, cet espace entre le Giro et le Tour. Ce qu'il expliquait, c'est qu'il a profité quasiment de chaque heure pour essayer de régénérer et de récupérer. Voilà. Est-ce que ça sera suffisant? C'est pas certain. Voilà, ce qui sera intéressant de voir, c'est s'il profite aussi éventuellement des descentes. On connaît quand même sa technique, ouais, et son esprit, ouais, offensif. Est-ce que, je sais pas ce qu'en pense Cyril, peut-être que on peut voir Alberto Contador dans les prochaines minutes tenter de surprendre tout le monde en descente aussi.
C'est un très bon descendeur, hein. Mais pour revenir sur la préparation, moi je pense que la meilleure préparation ou la meilleure activité qu'il pouvait avoir entre le Giro et le Tour de France, c'était de faire une piqûre de rappel de compétition en faisant, on va dire, une course secondaire, et j'espère que je ne fâche pas les organisateurs, une épreuve de transition pour retrouver l'intensité de la compétition. C'est ce qu'il a fait. Alors si ça marche pas, on va dire que c'est parce qu'il l'a fait, et s'il l'avait pas fait, on aurait dit qu'il aurait dû le faire. Non, je pense que, rappelez-vous, les trois derniers jours sur le Tour d'Italie, il était plutôt pendu, hein.
Oui, oui, oui.
Très très pendu, comme c'est souvent le cas en troisième semaine sur les grands tours depuis 2010. Donc non, je pense que je pense pas qu'il aurait été au niveau où il est sur le Tour de France s'il n'avait participé à aucune compétition. Vous savez, c'est très difficile à l'entraînement, parce que quand on dit récupération, ça veut dire aussi qu'à l'entraînement vous allez vous faire mal. C'est pas uniquement des promenades à 25 à l'heure. Donc vous allez être obligé de faire sur 4 semaines un microcycle de travail en travaillant toutes les intensités, sinon vous allez perdre votre niveau de performance. Or il s'agit de le conserver, donc vous avez besoin, parce que mentalement c'est tellement dur à l'entraînement, mentalement c'est plus facile en compétition, et c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a pas donné, il a suivi toute la, on va dire, pendant toute la route du sud, et le seul gros effort qu'il a fait, c'est presque dans la descente pour lâcher Quintana. Non, je pense qu'il a eu une très bonne préparation, mais ben il faut se rendre à l'évidence, il n'a plus 25 ans et qu'il n'a plus cette capacité d'accélération qu'il avait il y a 4 ou 5 ans, ça c'est évident.
Ouais. Lucho nous a rejoint, salut Luc.
Salut à tous.
Luc, aujourd'hui tu crois encore l'exploit possible de remporter le Giro et le Tour de France la même année? Bon, pour Contador ça s'annonce difficile, mais est-ce que c'est encore possible selon toi de faire cet exploit?
Bah, tout est possible, tu sais, il y a eu tous les 10 ans, 15 ans, il y a toujours eu un grand champion qui a remporté le Giro et le Tour de France. Alors aujourd'hui ce champion là n'est pas peut-être sur le Tour de France. Contador maintenant, de toute façon c'est irréalisable de pouvoir faire la même performance Giro Tour de France cette année. La seule performance qu'il peut faire sur le Tour de France cette année, c'est peut-être éventuellement de monter sur le podium, parce qu'il y a quand même 4 grosses étapes alpestres déjà à partir d'aujourd'hui. Donc il y a les moyens pour Contador de se refaire la santé. Je pense qu'il est peut-être mieux que les 15 premiers jours du Tour, donc il aura l'occasion de pouvoir attaquer, d'essayer éventuellement de remonter sur l'une des 3 premières marches du podium.
Pour l'instant il est 4e, puisqu'on rappelle l'abandon de TJ Van Garderen et celui qui monte sur le podium.
Alors, je pourrais ajouter autre chose concernant Contador. Tenter le doublé comme c'est le cas, enfin c'est ce qui avait été annoncé, hein, en tout cas, c'est peut-être pas à l'âge qu'il a qu'il faut tenter ce genre de choses.
32 ans, Alberto Contador, on le rappelle, 32 ans et demi pour ce coureur.
C'est jeune encore.
Oui, mais il a commencé très tôt, hein, oui. Chez Liberty Seguros. Ensuite, il y a très longtemps, il a une carrière très riche avec des up and down, des hauts et bas, des mois de suspension, des polémiques, des déménagements. Il vit désormais à Lugano, dans la Cossu, cité suisse, sur les bords du lac éponyme. Le lac de Lugano, où l'on trouve tous les millionnaires suisses, et il s'est peut-être un peu embourgeoisé. Alberto Contador, je lui ai rendu visite au mois de novembre dernier dans ses appartements, et je peux vous dire que le deuxième sous-sol était fourni en bolide de luxe. Il vit très bien, Alberto Contador. Il a fait un choix fiscal évident, il est au calme, il n'habite plus à Pinto en Espagne, où il est une star, une icône vivante, un dieu vivant même là-bas. Alberto Contador n'a plus qu'une saison et demie à courir, ce n'est plus le Contador d'antan, évidemment.
Lugano, peut-être qu'il a la clim chez lui, non? Vous avez pu vérifier?
Oui,
parce que là,
oui,
il est extrêmement furieux contre les conditions d'hébergement qui sont les siennes sur celles de son équipe sur Gap. Là, hier, il se plaignait énormément de la chaleur.
Pas
qui...
de clim dans son hôtel. On est voilà. passé devant. Il était l'hôtel au bord de la grosse nationale. C'est vrai qu'on comprend pourquoi certains ont envie d'aller dormir dans beau mobilhome. Je crois que la formation Sky, on en parlera tout à l'heure, a connu également une journée de repos compliquée.
Allez, pour clore le chapitre Contador, il a attaqué tout à l'heure en compagnie de Michael Rogers, repris par le peloton sous l'impulsion de Valverde notamment. Contador est à nouveau dans le groupe maillot jaune à 3 minutes 10 de la tête de course, mais Contador n'a peut-être pas baissé les bras. On rappelle qu'il a deux équipiers, Majka et Sagan, dans le groupe de tête, et il a envoyé son Michael Rogers en contre-attaque. Ça veut peut-être dire ok, on me laisse pas sortir moi, mais toi vas-y Michael, et je te rebecte dans le col d'Alos ou dans la descente, et tu me files le coup de main dans l'ascension d'Alos ou dans la montée finale de Pralou. Il y a peut-être quelque chose qui se met en place chez Tinkoff.
Sait-on jamais. Merci Fred, merci également à David d'être venu dans notre studio RMC ici. David, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France, avec de très belles pages encore à lire demain. On l'espère.
On va essayer.
C'est le premier qu'on lit le matin quand même. Hein, donc t'as intérêt à être bon avec tes petits camarades. Merci David.
Merci.
On va retrouver la moto RMC pour une impression visuelle en tête de course avec les 28. Enfin, ils sont plus 28. Je crois qu'ils ne sont plus que 27 ou peut-être un peu moins. Georges, combien en as-tu dans les mirettes?
Ça va être difficile de compter dans une descente, Christophe. Dans la descente du col de la Col Saint-Michel, classé en deuxième catégorie, c'est Powells, Serge Powells de l'équipe MTN Kubeka, qui est passé en tête au sommet. On ne s'est pas vraiment fait la guerre dans ce groupe de tête, dans cette ascension où on a beaucoup vu les FDJ assurer le tempo. Vaugrenard et Thibaut Pinot également bien positionnés. En revanche, les Tinkoff Saxo, hein, dont vous parliez, Majka et Sagan, eux, sont restés bien au chaud, peut-être pour aider Alberto Contador. Tout à l'heure, on n'a pas vu de coup de pédale en trop également pour les Sky, Porte et Nicolas Roche. On est dans la descente, on va basculer jusqu'au sprint intermédiaire à Beauvaisis, où on imagine bien que Peter Sagan va prendre le maximum de points dans quelques instants pour le maillot vert.
Merci Georges, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, je vous offre la possibilité de gagner de très beaux cadeaux. Le jeu de société L'Échappée Infernale, le livre Parlons Vélo de Marc Madiot aux éditions Talents Sport, et deux places VIP pour le Between Ski Bike Tour qui se déroule dans le Nord à Armentières les 29 et 30 août prochain, avec dans la musette deux inscriptions pour l'une des deux courses, deux invitations pour la pasta partie du dimanche et une nuit d'hôtel pour deux à l'Holiday Inn, hôtel officiel de la Between Ski Bike Tour. Pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau, appelez le 3216 touche 6 ou envoyez le mot-clé RMC par SMS au 7-32-16. Bonne chance, 62 km encore à parcourir et les hommes de tête comptent désormais 3 minutes 29 secondes d'avance sur le peloton. A tout de suite sur la route du Tour.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
60 km de l'arrivée à Pralou, avec de grosses difficultés qui attendent encore les coureurs, notamment tout à l'heure l'ascension du col d'Alos, la descente du col d'Alos, et pour terminer la montée vers Pralou. Étape magnifique étape aujourd'hui, Fred, cette 17e étape où il se passe déjà pas mal de choses depuis le début de la journée. Le top course.
RMC Top Course.
60 km de l'arrivée dans la descente de la Col Saint-Michel en direction d'Alos et du célèbre Col d'Alos qui sera le toit du Tour de France. 2250 mètres d'altitude avant la vertigineuse descente en direction de la station de Pralou. Pralou, il faudra monter au terme d'une montée de deuxième catégorie. 27 coureurs à l'avant de la course avec 3 minutes 30 d'avance sur un peloton maillot jaune et 2 minutes 20 sur un groupe d'intercalés où l'on trouve Michael Rogers et les Français Romain Sicard et Brice Feillu. Notez dans le groupe de tête la présence des Français Michael Chérel pour AG2R La Mondiale avec son équipier Bakelands. Thibaut Pinot est là également pour la FDJ. Péric Kemener chez Europcar. Nicolas Hédet pour Cofidis. Et puis la présence à noter, à signaler... de Peter Sagan, le maillot vert qui est échappé pour la quatrième journée consécutive en compagnie de Rafał Majka. Attention aux Polonais, grimpeur émérite, meilleur grimpeur du Tour l'an passé et qui a déjà remporté l'étape de Cotteret en milieu de Tour de France. Le duo de la Cannondale Garmin, Ejedal et Talansky. La présence également de l'excellent grimpeur hollandais Kruiswijk chez Lotto Jumbo. Degenkolb et Geschke, les Allemands sont là aussi. Richie Porte et Nicolas Roche sont les équipiers de Christopher Froome présents dans cette échappée du jour. Les trois Espagnols de la Movistar, Castroviejo, Herrada et Izaguirre, probablement là pour servir de relais soit à Valverde, soit à Quintana. Attention, la Movistar est peut-être l'équipe clé de cette 17e étape du tour. Le Britannique Adam Yates également présent, ou le leader suisse Mathias Franck chez Yam Cycling. Mathias Franck qui était le mieux placé au général ce matin, 13e à 14 minutes au général.
Alors on vous rappelle aussi, c'est un fait de course important, l'abandon de TJ Van Garderen, l'américain de la formation BMC qui était 3e ce matin en général. Et puis Tony Galopin qui semble en difficulté à l'arrière du groupe maillot jaune, hein, Fred, avec une bonne grosse minute de retard désormais sur les leaders. Cyril, on s'en doutait que ce serait difficile, hein, tu le disais, dans les grandes étapes de montagne, la répétition des efforts. Ça fait quelques jours qu'il est moins bien, Tony, malheureusement. Hein.
Oui, mais c'est tout à fait logique. Il était en sur-régime, hein, sur les Pyrénées. Bon, sur la première partie, il était à son niveau, dans une course normale. Mais là, sur la traversée des Pyrénées, survolté par sa position au classement général, bah, il s'est un petit peu trop entamé. Il n'en a pas suffisamment gardé. Il n'est pas un coureur fait pour passer deux jours, trois jours en haute montagne avec les meilleurs grimpeurs. Bien, l'addition, malheureusement, se paye. Comme je dis toujours dans le Tour, il n'y a jamais de soustraction, il n'y a que des additions.
Ouais, de lourdes additions et ça peut coûter très cher, évidemment. 56 km 900 de l'arrivée. Messieurs, avant d'attaquer les choses sérieuses, l'ascension du col d'Alos tout à l'heure, on va tout de suite découvrir ce qu'il y a dans la musette de nos reporters.
RMC Intégral Tour, la musette.
La musette avec évidemment Pierrick Ten, notre chasseur d'infos qui est là avec nous et qui nous ramène de bonnes petites infos tous les jours. Ça va Pierrick, ça
Salut Christophe, bonjour à tous. Ça
alors
va
de bien. Quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
On va parler de cette descente d'Alos, hein, puisque on le sait, ça va sans doute être un des temps forts de cette journée. Sans doute la descente peut-être la plus compliquée à gérer sur ce Tour de France. Environ 15 minutes durant lesquelles les coureurs devront faire preuve d'une très grande attention, de très grande concentration. Et c'est que c'est Romain Bardet, hein, qui s'était illustré sur les routes du Dauphiné. Il s'était imposé ici même il y a quelques semaines. Alors on est allé rencontrer ce matin au village départ Thierry Gouvenou et on lui a demandé justement si cette descente n'était pas un petit peu dangereuse. Fred.
Si, Thierry Gouvenou, le directeur de course, hein, qui a pris le relais de Jean-François Pécheux au sein de l'organisateur ASO.
Donc on lui a posé la question, on lui a demandé voilà, si cette descente ne risquait pas d'être un peu dangereuse, surtout compte tenu les conditions climatiques peut-être qui s'annoncent un peu délicates en cette fin de journée.
Alors c'est vrai que la descente du col d'Alos c'est pas vraiment dangereuse, mais elle est très technique et elle est très exigeante physiquement. Il y a des virages tous les 50-100 mètres et ça demande une concentration extrême, d'être en confiance, être bien physiquement, mentalement pour pouvoir aborder cette descente dans les meilleures conditions. Et c'est vrai qu'on peut s'attendre cet après-midi à des attaques dans tous les sens parce que tout le monde connaît la difficulté de cette descente et certains vont vouloir en profiter. C'est pas dangereux, mais c'est technique. C'est une telle succession de virages que c'est épuisant, quoi. Et on comprend mieux pourquoi il y a une quarantaine d'années, Illimers a une défaillance parce qu'elle demande tellement de concentration, tellement d'engagement physique qu'on peut après avoir un coup de moins bien dans la montée de Pralou.
Eh oui, effectivement. Donc ça peut être dangereux. Alors c'est pas la première fois, hein, Fred, que les organisateurs du Tour nous dégotent une petite descente dangereuse. On se souvient, alors je me rappelle plus le nom de cette descente, mais en 2013, lorsque le Tour de France s'avait gravi à deux reprises,
oui, la descente de l'Alpe d'Huez par l'autre versant.
Voilà, par l'autre versant. Tu te rappelles plus du nom de cette descente? On va essayer de retrouver ça.
En Italie aussi, on se souvient que Thomas Vauclair avait fait un tout droit, était arrivé sur une terrasse.
Sur l'étape précédente, Pinerolo, à Pinerolo. Ouais. Effectivement, il y a des descentes qui sont dangereuses. Attention, dans quelques jours, il y aura la descente du col du Molard avant l'arrivée à la Toussuire. Le col du Molard particulièrement glissant, non plus sérieusement, particulièrement scabreux. Il y en a des descentes pièges et effectivement, Alos fait partie des descentes les plus redouté par l'ensemble du peloton. Le bon point et le point rassurant pour les coureurs, c'est que cette descente a été empruntée il y a un mois par le Critérium du Dauphiné. Tous les coureurs du Tour n'étaient évidemment pas sur cette épreuve préparatoire, mais tout le monde est au courant que la descente d'Alos est dangereuse. Et quand on est au courant dans un peloton cycliste, on sait se mettre sur le même rythme et sur la même tonalité pour, pourquoi pas, faire un pacte de non-agression. Quand la vie des coureurs est en danger, on sait être responsable et solidaire parmi les coureurs.
Le col de Sarène, la descente de Sarène, voilà
exact.
Ce à quoi nous avions eu droit il y a deux ans. Alors tout le monde se disait, oh là là, ça va être la catastrophe, ils vont tous plonger dans le ravin. Finalement, heureusement Lucho, il ne s'était rien passé, mais c'est vrai que lorsqu'on est dans une descente comme ça et qu'on voit le vide sur le côté, ça
fait... Ah ben oui, moi j'ai fait la descente en voiture, pas dangereuse. Thierry Gouvenou va un peu trop vite parce que bon, il était coureur aussi comme nous. Elle est quand même relativement dangereuse. En plus, les virages sont très techniques, très serrés. Et le désavantage en plus avant le passage des coureurs, c'est que tu as un paquet de voitures qui descendent. Donc cette longue descente, et ça va favoriser la fonte du goudron dans les virages, donc ça sera encore plus dangereux.
C'est ce qui est revenu, hein. D'ailleurs, c'est aussi la qualité de la route, voilà. Également qui faisait peur, enfin qui fait peur au peloton, hein, pas forcément que les virages.
Voilà, le goudron qui risque de fondre, et donc ça va pas faciliter la tâche des coureurs, hein, Christophe.
Très bien, merci Pierrick, donc pour ces renseignements concernant la descente du col d'Alos que les coureurs bien attaqueront dans quelques minutes. Mais d'abord, faut monter avant de descendre, évidemment.
Fred, indispensable, hein. Musette de Pierrick aujourd'hui. Cette descente du col d'Alos, c'est le point de passage redouté, pas le point de passage obligé, le point de passage redouté et a priori décisif sur cette 17e étape du Tour. On vous rappelle la présence à l'avant de la course de un peu plus de 25 coureurs avec 2 minutes 15 sur un groupe de contre-attaque où l'on trouve Feyu, Sicard et Michael Rogers, mais à l'avant Chérel, Pinot, Vaugrenard, Kemener et Edek côté français, mais aussi les Tinkoff, Saxo, Sagan et Machka et les Sky, Roche, Nicolas Roche et Richie Porte. 2 minutes 20 sur la contre-attaque, 4 minutes sur le groupe maillot jaune et 4:45 sur le groupe Tony Galopin, Jean-Christophe Perrault, qui s'apprête à vivre une mauvaise journée puisqu'il reste, on vous le rappelle, l'ascension d'Alos et la montée de Pralou.
Et on en profite, nous, pour continuer notre petite musette, voir ce qu'il y a dedans. On va aller sur la moto RMC avec Georges Quirino, qui a sûrement de bonnes informations à nous donner, lui qui tous les matins passe au cul des camions, au cul des bus, des coureurs, avant de prendre la route. Georges, qu'as-tu dans ta musette aujourd'hui ?
Exactement. Je vais vous parler de Sky, mais juste en complément de ce que disait Pierrick pour la descente d'Alos et peut-être de la sécurité. On a une preuve devant nous que les organisateurs veulent prendre toutes les précautions. On a déjà fait passer toutes les voitures invitées, tous les véhicules invités à l'avant pour qu'ils soient bien devant les coureurs et non pas derrière dans la file des voitures et que ce soit difficile. Voilà, parce qu'on se rapproche du pied du col d'Alos. Ma musette aujourd'hui, je suis allé chez l'ami de Cyril Guimard. Le meilleur ami de Cyril Guimard sur ce Tour de France, c'est Nicolas Portal, le directeur sportif de l'équipe Sky. Pourquoi je suis allé le voir ? Parce que j'ai regardé les amendes ce matin. Vous savez que les directeurs sportifs parfois prennent des amendes parce qu'ils ne se comportent pas bien en course. Et là, j'ai vu une amende incroyable. 1000 francs suisses pour Nicolas Portal. Je crois que c'est la plus grosse amende que j'ai jamais vue. C'est presque 1000 euros d'amende pour obstruction mettant en danger les coureurs lors de la dernière descente. C'était sur l'étape qui nous a mené à Gap. Et en fait, il a eu une mauvaise aventure, Nicolas Portal. Lorsque Geraint Thomas est parti dans le fossé, il a voulu se faufiler pour pouvoir être derrière Christopher Froome dans le groupe de tête pour l'aider en cas de pépin technique. Le problème, c'est qu'il avait des coureurs attardés devant lui et en fait, en essayant de les doubler, il s'est trouvé bloqué en plein milieu de ce groupe. Donc il avait des coureurs devant, des coureurs derrière lui. Il était avec sa voiture au milieu, comme ça, dans la descente de la Rochette. Donc autant vous dire que c'était très dangereux. Il n'avait pas été vu par les commissaires de course, mais ce sont ses collègues directeurs sportifs qui l'ont balancé à la fin de la course auprès des commissaires pour qu'il vienne prendre l'amende. C'était assez chaud visiblement à l'arrivée de l'étape à Gap, mais en tous les cas 1000 francs suisses d'amende pour Nicolas Portal, et je me suis renseigné, c'est pas lui qui la paye
évidemment.
Il y a un petit pot chez Sky pour qu'on paye l'amende.
Ils ont les moyens chez Sky, on peut leur mettre des grosses amendes. Allez-y, messieurs les commissaires, faites-les cracher.
C'est pas sympa.
En fait, Cyril, tout le monde qui balance sur Sky.
Cyril, un petit mot justement, tu as dû te retrouver déjà, j'imagine, dans cette situation avec une voiture de directeur sportif dans une descente. descente avec des coureurs devant, derrière. C'est stressant, hein, cette situation-là. Hein.
Ah, il faut une très grande maîtrise du pilotage voiture. Hein, et non seulement du pilotage, mais avoir une connaissance parfaite des trajectoires des coureurs, des freinages, des écarts qu'ils peuvent faire. Alors, c'est vrai qu'il faut un coup d'œil. Il faut vraiment un coup d'œil extraordinaire. Mais il faut avant tout, à ce niveau-là, il faut avoir été coureur, j'ai envie de dire pas obligatoirement du Tour de France, mais presque, enfin, ou tout du moins avoir accompagné des pelotons et des pelotons pendant plusieurs années, pour avoir ce petit coup d'œil qui va vous permettre d'avoir le petit dixième de seconde qui va vous permettre d'éviter éventuellement un drame. Oui, des pelotons, j'en ai doublé des dizaines dans toutes les étapes de montagne. C'est vrai qu'il y a du stress, mais souvent le stress, je vais vous dire où il est le stress. C'est quand vous avez un passager à côté et quand vous ouvrez la porte à la fin de l'étape pour le faire descendre, et ça m'est arrivé, la personne à côté, les jambes tétanisées, ne pouvant plus marcher. Donc vous voyez le niveau de stress que l'on peut avoir quand on est là au milieu, ouais, des coureurs dans les descentes de col.
Bah, c'est un peu comme nous avec Fred quand on descend de la voiture et que tu prends le volant.
Exactement.
Hein, on est un peu tétanisé.
Quand on rentre à l'hôtel, il nous faut 2-3 apéros pour se remettre.
Parce qu'il a gardé son coup de volant... incisif, l'ami Cyril.
Ah, je n'ai aucun problème. D'ailleurs, je continue toujours
à faire une carte, oui.
Je continue à faire un peu de carte, oui, pour justement conserver la notion de la glisse en voiture.
Non, ouais. Non, mais du moment qu'il reste à 1,8 et 2,4 aux œils gauche et droit, 1,8 sur 10 et 2,4, c'est bon, hein, on peut continuer.
Ah non, mais on peut aller jusqu'au toucher. Hein.
Oui, j'ai vu.
Très bien. Alors, vous savez qu'on est passé pas très loin de la côte méditerranéenne, et du coup, on a récupéré l'homme de la troisième semaine ici dans l'équipe RMC. Il est tout frais, il est en pleine forme et il est avec nous, c'est Yann Pécheral.
Salut Christophe,
salut Yann.
Bonjour à tous. Salut,
il est
salut.
Venu
ravi d'être parmi
renforcé après le départ, on vous l'a dit, de Pierre-Yves. On pense très fort à Pierre-Yves, on vous rappelle, et on dédie cette émission à la mémoire de son papa décédé dans la nuit. Yann, tu es donc avec nous, c'est ton premier Tour de France, tu ouvres des yeux d'enfant, même si
exactement,
je crois que ton papa justement lui en a fait un paquet.
Il en a fait beaucoup, ouais. Il en a fait beaucoup, moi c'est mon premier, puis en plus j'ai du caviar pour commencer.
Hein. Oui, évidemment, tu arrives avec les Alpes. Franchement, moi si on m'avait proposé ça pour mon premier tour, j'aurais accepté volontiers. Mais bon, même si tu débutes, tu es au contact, tu es à l'info, et tu es allé nous chercher des infos ce matin, là aussi au cul des bus des coureurs.
Écoute, pour ma musette, un anniversaire, je sais que tu aimes bien ça, Christophe.
Ah, mais c'était ton anniversaire d'ailleurs hier soir.
C'était presque le mien hier soir, effectivement. Et un anniversaire, c'était il y a 40 ans. Et bien, il y a 40 ans, Bernard Thévenet a fait quelque chose qui reste dans les mémoires pour les coureurs, c'est que il a gagné à Praloux, ici même, et puis il avait déposé Eddy Merckx. Et alors on a vu Bernard Thévenet ce matin, parce que il a posé avec le maillot jaune de l'époque au village départ, et il était magnifique, le maillot jaune. Bernard Thévenet aussi, il était ravi, et nous on était ravi aussi.
C'est de la même matière que
c'est plus les mêmes,
ceux
hein.
qu'on a croisé chez Cyril, parce que on en a croisé.
Oui, mais alors c'est les mêmes.
C'est les mêmes
que chez Cyril.
En laine bien épais qui pèse 15 kilos quand.
Ouais, mais il était magnifique, hein, ce maillot ce matin.
Et Bernard avait enfilé le maillot.
Oh là là. Bernard avait enfilé le maillot.
Cliché.
Et alors, du coup, aujourd'hui, pour lui rendre hommage, eh bien, il y a un arche qui est sur la route du Tour, à l'endroit même où Bernard a déposé Eddy Merckx. Et on voit au-dessus de cette arche, il y a marqué le tombeur du cannibale à cet endroit-là. Et une demi-heure avant le passage des coureurs, eh bien, il y aura Bernard Thévenet. Et puis, voilà, il y aura un petit hommage qui lui sera rendu à cet endroit-là. Donc voilà, bon anniversaire, Bernard Thévenet.
Bon anniversaire, Bernard Thévenet. On a parlé de cette étape tout à l'heure, les 40 ans de cette étape incroyable. On l'écoutera tout à l'heure, Bernard Thévenet, d'ailleurs. Je ne sais pas si on l'a en régie pour l'écouter, pour nous raconter ce moment-là. C'était il y a 40 ans, une étape entre Nice et Praloux, et la victoire de Bernard Thévenet, qui avait donc déposé Eddy Merckx, le cannibale. On écoute Bernard Thévenet.
Je suis déjà repassé à Praloux ces derniers temps. Je n'étais pas passé depuis très très longtemps. Je suis passé au mois d'octobre l'année dernière. Je suis repassé au mois de juin pour l'étape du Critérium du Dauphiné. Et j'ai remonté Praloux en vélo cette année, à la fin juin, avec un groupe de cyclotouristes de la Cyclo des Grandes Alpes. On a fait Vars et Praloux. C'est un peu plus dur que... mais beaucoup plus dur qu'il y a 40 ans. On se rappelle certains passages en disant, mais tiens, ah oui, là, j'ai fait ça, là, j'étais sur le grand plateau, alors que là, maintenant, je suis là sur le 32, mais sinon, il y a quand même ce souvenir de la victoire d'étape et de la prise du maillot jaune. premier maillot jaune de sa vie, c'est quelque chose d'inoubliable.
Eh oui, le premier maillot jaune de sa vie. On rappelle que Bernard Thévenet a ramené à deux reprises hein, le maillot jaune sur les Champs-Élysées, double vainqueur de ce Tour de France. Il a porté le maillot jaune et ce jour-là, d'ailleurs, il avait pensé à un certain Poupou Poulidor qui, lui, n'a jamais porté le maillot jaune sur les routes du Tour. Merci Yann donc pour cette...
D'où sa popularité.
Exactement, la popularité de Poupou qui n'a jamais porté le maillot jaune. La moto RMC rapidement avec le sprint intermédiaire. Georges.
Ah oui, le sprint intermédiaire à Beauvaisis, et figurez-vous que ce n'est pas le maillot vert qui est passé en tête au sprint intermédiaire, c'est Benoît Vaugrenard de l'équipe FDJ devant John Degenkolb, Peter Sagan qui ne passe qu'en troisième position sur cette ligne du sprint intermédiaire, et John Degenkolb qui a d'ailleurs pris quelques mètres d'avance sur le groupe de tête.
Merci Georges, allez on va se quitter quelques instants, 15h41, on se retrouve dans quelques instants pour le final de cette étape, l'ascension du col d'Allos, la descente et la montée vers Pralou. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
45 km de l'arrivée de cette 17e étape du Tour de France, l'entrée dans les Alpes et la montée tout à l'heure finale vers Pralou, lieu mythique du Tour de France, puisqu'on vous le rappelait il y a quelques instants, il y a 40 ans, Bernard Thévenet avait dépossédé Eddy Merckx de son maillot jaune. 4 minutes 55 d'avance pour les hommes de tête sur le groupe maillot jaune. On va voir dans quelques minutes l'ascension du col d'Allos, si les différences et si des attaques se produisent. Dans notre petit camion RMC, une voix que vous connaissez bien, elle enchante nos hivers et désormais les étés, c'est Christelle Pascal. Bonjour Christelle.
Salut à tous. Mais très bien, plaisir de vous retrouver, surtout sur mes terres.
Exactement, nous sommes sur les terres de la Louve. La Louve de Pralou, évidemment, Kiki, on le rappelle, ancienne vice-championne du monde de slalom et qui est membre de la Dream Team qui nous accompagne tous les hivers sur les Jeux Olympiques, les championnats du monde et les grandes épreuves. Christelle, on est chez toi ici à Pralou, oui. On en parlait tout à l'heure en antenne, en 75 t'étais toute petite. Hein.
Oui, j'avais seulement 2 ans. Donc, cela dit comme ça, tout le monde connaît mon âge, tout va bien. C'est pas un souvenir, mais c'est vrai que ça avait marqué vraiment les esprits et ça fait très longtemps que le dossier des 40 ans à fêter était dans les clous. Donc, je suis vraiment ravie de cette étape et tout est vraiment formidablement bien organisé. Donc, c'est un plaisir de suivre ce tour en tout cas.
Tu as longtemps travaillé pour Pralou, hein, tu t'occupais de la communication de l'Office du Tourisme. C'est important pour une station comme ça de montrer qu'il n'y a pas que l'hiver, il y a aussi l'été et qu'on peut faire des choses dans la montagne.
Et oui, et on sait combien les stations de ski peinent à vendre la montagne l'été, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses attractives. Ici dans cette belle vallée, il y a énormément de cols qui sont mythiques et qui entourent la vallée. La suite, on la connaît aussi vers la Savoie également. C'est super important pour des stations de ski qui sont vraiment moteurs l'hiver d'arriver à trouver un bon développement, et c'est par ces gros événements aussi qu'on arrive à faire découvrir les territoires et qui sont juste magnifiques. Il y a un soleil splendide, des cols mythiques, ouais. Donc vraiment c'est très important effectivement de développer ça aussi. C'est vrai que l'hiver c'est presque facile de communiquer, de développer l'hiver, et il faut encore travailler sur l'été.
Alors tu nous dis qu'il fait beau, on va demander si c'est vraiment beau à George. Kiki, Riri, Nono qui est sur la moto. George, un petit mot à dire à Christelle, je crois.
Hello George.
Et au moment, salut Christelle, et au moment où tu arrives, les premières gouttes de pluie sur cette étape, on a un gros nuage gris au-dessus de nos têtes, et les premières gouttes de pluie, bon c'est pas encore la grosse averse attendue et l'orage dont on a parlé ce matin, mais c'est vrai que les coureurs doivent se dire au moment où ils se rapprochent du col d'Allos que ces gouttes de pluie là, ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux à l'approche de cette difficulté.
Voilà, mais bon, les orages en montagne l'été, ça
c'est
dure
classique,
pas longtemps, hein.
Ça rafraîchit, ça fait du bien.
Exactement. Christelle, la Savoie demain, parce que maintenant tu es en Savoie, tu as quitté Pralou pour te rapprocher des plus grandes montagnes, celles où tu as remporté de si grands succès. Là aussi pour la Savoie c'est important,
c'est très important, deux étapes,
de très belles étapes, la vallée de la Maurienne qui sera à l'honneur ce demain et après-demain, Saint-Jean-de-Maurienne puis la Toussure après-demain, l'étape Rennes, là aussi c'est important pour ces stations-là. Hein.
C'est ça, c'est vraiment valorisant pour le territoire, c'est important, et puis surtout ça draine vraiment, on le voit avec la caravane, avec le tourisme et les clients qu'il y a autour de ce Tour de France, c'est vraiment quelque chose de très important pour le territoire. C'est porteur, porteur d'image aussi, parce qu'on le voit dans toutes les belles retransmissions et à la radio aussi. On entend, on découvre le territoire, on découvre, demain on va découvrir toute la vallée de la Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne, on va découvrir la Toussuire, le pays qui est cher à Jean-Pierre Vidal, évidemment. Donc voilà, tout ça, eh bien, c'est important de le mettre en avant. Et encore une fois, voilà, il n'y a pas que l'hiver. Il n'y a pas que l'hiver. La montagne, l'été, c'est un terrain de jeu formidable. Donc vraiment, j'invite vraiment les gens, au-delà de regarder ou d'entendre et d'écouter les sons, et de venir découvrir ces beaux territoires qu'on a l'été.
Ah, elle est magnifique, la montagne. Elle est encore peut-être plus belle l'été que l'hiver. On sera d'ailleurs demain et après-demain avec quelqu'un que tu connais bien, Maurice Adrey, qui nous accompagne les hivers, Momo. Hein, Georges, une petite imitation de Maurice Adrey. Alors, Maurice Adrey, pour ceux qui ne connaissent pas le monde du ski, c'est l'attaché de presse de l'équipe de France de ski, celui qui nous amène tous les champions au micro d'RMC tous les hivers. Qui nous écoute
régulièrement. Entraîné pendant de longues années aussi.
Voilà, qui a été ton entraîneur. Oh là là, c'est pas facile. Merci Kiki d'être venu dans ce studio. Et voilà, on est bien à Pralou et on espère y revenir très rapidement.
Merci, salut.
Merci Christelle. Fred, on va faire un nouveau point sur la course. 42 km. On n'est pas encore dans le col d'Allos, pas encore.
Toujours dans la vallée, en direction de Colmar-les-Alpes, où nous attend notre vieux loup à nous, Jean-Louis Filc, avec la descendance.
On fait un gros bisou là aussi.
Oui, on l'embrasse évidemment. Il paraît qu'il a fait la rafle dans la caravane. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
Il a toujours été très doué
chez Haribo et tout le reste.
De la caravane. Je suis beaucoup moins doué que lui.
Oui, j'ai fait le plein pour lui aussi.
Ah, t'as fait le plein,
parce que je me suis arrêté.
Je crois, sur le bord de la route.
J'ai vu ses petits-fils et tout ça, et j'en ai profité pour leur emmener plein de petits cadeaux, les bonbons Haribo, tout ça.
Si tu en as en rade.
Gadget à droite, à gauche. Maintenant, j'ai tout donné.
Ah, d'accord, ok, merci.
Ben, je pourrais t'en récupérer pour ton fils.
Exactement.
Voilà.
Mes enfants.
J'ai bien compris.
Fred, donc, le vieux loup est sur le bord de la route.
Oui.
Avant Pralou.
Lucho, équipier modèle, on aura tout vu. 42 km à parcourir. Colmar-les-Alpes qui marque le pied de la montée du col d'Allos. 14 km d'ascension. C'est pas bien raide. 5,5%, mais ça monte haut. 2250 mètres d'altitude. C'est le toit du tour cette année. Et la descente qui suivra l'ascension s'annonce vertigineuse, très dangereuse. Les premières gouttes de pluie sur la course, peut-être pas une route détrempée dans la descente d'Allos, mais attention tout de même. Puis cette montée finale vers Pralou en deuxième catégorie, 6 km d'ascension. Un homme seul en tête, il est allemand, Simon Geschke, coureur de l'équipe Giant Alpecin. Et derrière, il y avait 27 contre-attaquants. C'est en train de sortir un petit peu dans ce groupe qui ne s'entend plus. On a vu les Sky, Porte et Nicolas Roche piégé. Thibaut Pinot est toujours là. Il fait beaucoup d'efforts quand même, le grimpeur franc-comtois, pour boucher les trous dans cette contre-attaque. Et puis derrière, sachez que le groupe maillot jaune est en train de baisser les bras pour ce qui concerne la victoire d'étape intercalée. On rappelle, il y a les Français Feillu et Sicard accompagnés de Michael Rogers. Rogers, coéquipier de Contador en contre-attaque. Des coéquipiers de Contador, il y en a d'autres en tête de la course, à savoir Machka et le maillot vert Peter Sagan. On est au pied de l'avant-dernière difficulté de la journée, le fameux col d'Allos, 40 km à parcourir. Geschke avec 7 minutes 15 d'avance sur le groupe maillot jaune et 30 secondes d'avance sur ses contre-attaquants.
Et avant que les choses sérieuses ne commencent dans la montée vers le col d'Allos, on va parier sur RMC.
Les paris RMC, Tour de France.
Et on accueille comme tous les jours Benjamin Ramager, le roi des paris. Salut Benji.
Et non, Christophe, c'est moi.
C'est Benoît. Benoît Boutron, qui est de retour de l'étape du Tour. Il est rentré.
On voit que Christophe a quitté la route du Tour pendant une journée.
Il était en repos, fallait pas le déranger.
Ah, c'est ça, pardon, j'avais pas suivi.
Alors Benoît, déjà, avant de parler des paris, comment s'est passée cette étape du Tour?
On a le temps, on n'a pas le temps.
On a 5 minutes, vas-y. 5 minutes.
Écoute, ça s'est très bien passé, c'était une super expérience. Donc 15 000 au départ, comme l'an dernier. Et cette étape, à mon avis, peut-être un peu trop dure pour des cyclistes amateurs. Il y a eu plus de 5 000 abandons, plus avec la chaleur, le col du Glandon qui est très très dur.
Oh là là, c'est du jamais vu ça, hein. Tu le sais que 5 000 abandons sur une étape du Tour, énorme. Alors qu'il ne pleuvait pas, il faisait beau, j'imagine.
C'était chaud, canicule.
Oh là là, ouais.
C'était vraiment très dur, hein.
Honnêtement, c'est une leçon, c'est une leçon pour les organisateurs.
Honnêtement. Peut-être même un peu trop dur, voilà.
Tu as terminé la course ?
Alors moi j'ai terminé en 10h, donc j'ai eu beaucoup de mal à finir. Et en fait il m'est arrivé une Pierre-Yves Leroux. Vous le savez messieurs, désormais les vélos sont équipés derrière électriques. Et le mien a bloqué avant l'ascension de la Toussuire. Donc je pouvais plus changer de pignon et j'ai été un peu embêté pour faire la dernière ascension. C'était arrivé à pile effectivement sur les conseils de Cyril Guimard. Donc une petite galère, mais j'étais au bout effectivement.
C'est quoi? C'est le dérailleur électrique qui t'a planté?
Exactement.
Bien fait.
La batterie du dérailleur électrique.
T'es pas le premier à qui ça arrive. Et
à
voilà.
À l'ancienne.
Dérailleur électrique. Ça va lorsqu'on a une voiture de directeur sportif derrière, mais effectivement quand on est tout seul.
Exactement.
Et Gérald Mathieu.
Gérald, il a cartonné. Il a fait 8h01, il a été très bon, Gérald Mathieu, qui est le rédacteur en chef du site rmcsport.fr. Champion Gérald Mathieu, évidemment, qui a très bien terminé. Autre membre de la Dream Team qui était représenté, c'est Stéphane Diagana, qui lui a mis 6h30, je crois, qui a été impressionnant.
Oh là là.
Il finit dans les 1000, je crois, Stéphane Diagana, donc impressionnant.
C'est beau, hein. Stéphane qui fait beaucoup de vélo dans l'arrêt pays niçois. C'est impressionnant, Cyril, hein, quand même. 6h pour Diag, là, pour faire cette étape que l'on va passer dans 2 jours, c'est un beau résultat, hein.
Oui, c'est une belle performance, mais bon, il faut savoir qu'il a quand même derrière lui un passé de sportif de haut niveau, donc il y a toujours il reste toujours quelque chose, et si on est bien entraîné, du moins suffisamment entraîné pour ne pas être victime de crampes ou de choses comme cela, et puis que bien sûr on s'alimente bien, on picole bien, ça ne me surprend pas, ça veut dire qu'il était prêt, c'est-à-dire qu'il avait été très professionnel dans sa préparation, y compris sur son matériel. Il avait fait attention à son dérailleur électrique, ce qui lui a permis de ne pas avoir les avatars qu'on vient d'entendre. Alors, il faut faire très attention avec le dérailleur électrique. D'abord, le recharger systématiquement quand c'est nécessaire, mais surtout faire attention de ne jamais poser son vélo ou le mettre dans le coffre en appui sur les boutons de pression.
Dit, Cyril, tu me l'avais dit avant de partir.
Et là, bon, si vous appuyez dessus, pendant 8 heures, il pousse, et donc là, vous déchargez la batterie.
Très bien. On va parier quand même, Benoît. On va parier évidemment sur cette 17e étape du Tour de France. Quels sont les favoris? Les cotes ont changé. Là,
effectivement, les bookmakers se sont adaptés. Le favori désormais, c'est Rafał Majka, messieurs. 4,70. 7,50 pour Thibaut Pinot, qui est le deuxième favori. Nibali est toujours là, même s'il ne fait pas partie de l'échappée. 8 pour Vincenzo Nibali. 12 pour Valverde. Moi, j'avais joué Nibali hier, cote de 8. Et pour info, Chris Froome, 14, la cote de Chris Froome, ça peut se jouer également.
Alors, attendez, la circulée, il n'y a plus rien à voir. Hein. L'échappée, elle a 8 minutes, il reste 37 km. Je ne vois pas très bien comment le peloton pourrait revenir, parce que j'ai l'impression que l'attaque de Contador, plutôt que d'exciter les loups, eh bien, a plutôt calmé tout le monde.
Alors, Cyril, ton pronostic pour.
Bardet, Chérel.
Chérel, Michael Chérel, le coéquipier de Romain Bardet au sein de la formation AG2R. Lucho, un autre.
C'est vrai que Cyril dit Chérel, j'y avais pensé hier.
C'est pas possible.
Oui, je peux te le dire, j'avais pensé à Chérel hier. J'avais regardé un petit peu le classement général et c'est vrai que Chérel, c'est un très bon grimpeur. Sinon, je vais dire Pinot.
Thibaut Pinot,
pour 750. Alors, vous savez pourquoi je prends Chérel?
Non, dis-nous.
Parce que pour moi, dans l'étape du plateau de Bayle, je pense que si on avait inversé les rôles, et plutôt que de faire rouler Chérel, si on avait fait rouler Bardet, je suis pas certain que Chérel n'était pas plus fort que Bardet. Une simple impression comme ça.
D'accord. Fred.
Moi, je vois Richie Porte. Hein, je vois pas lui qui avait pris la deuxième place à la Pierre Saint-Martin. S'il est sur sa qualité au même niveau, aujourd'hui, il fait la différence dans Halo. Il s'en va tout seul. Il est très bon descendeur, l'Australien de la Sky. Aujourd'hui, il a les coudées franches. Il a un bon de sortie de la part de son leader. Je vois pas comment il peut laisser passer l'occasion.
Pour Richie Porte et gros coup de folie tenté par Cyril Guimard, c'est 150 Chérel, hein. Jetez-vous dessus. Vous faites confiance au druide, 150, 10 euros de misé, 1500 euros de gagné.
Ok, moi je vais jouer Pinot comme Luc, j'ai tellement envie qu'il gagne. Georges sur la moto.
Moi aussi je dis Quintana et que je vois le groupe des favoris revenir.
À 8 minutes 24.
17, code de Nero Quintana, Giorgio. Pas mal.
Alors je vais dire Pinot.
750 Pinot, bon, c'est votre avis.
Il nous l'a fait des smoufles. Hein. Très bien, merci Benoît. Tout à l'heure, 19h50 pour débriefer tout ça. Allez, on va se quitter quelques instants. On va laisser passer les infos de 16h. Revenir ensuite, il reste 36 km 700. 8 minutes 28 d'avance désormais pour les hommes de tête sur le groupe Maillot Jaune où on prend son temps. On espère évidemment qu'il va y avoir des choses. La grande bagarre va débuter dans l'ascension du Col d'Alos. À tout à l'heure.
TNU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC Intégral Tour.